Merci Céline. Dans un instant, bien sûr, retour de Allo Bouvard. Vos questions au 3210, mais tout de suite, les petites nouvelles.
RTL, Allo Bouvard.
Dans les maisons, la pollution intérieure est 5 à 10 fois supérieure à celle de l'extérieur. Donc on peut penser que c'est pour conserver leur bonne santé que tant d'hommes découchent. À partir de tissus fabriqués avec des déchets de matière plastique, les technocrates ont conçu de nouveaux vêtements pour les éboueurs parisiens. Ils ont privilégié le gris et le noir, peut-être en pensant que le soir, les ramasseurs vont en boîte. De moins en moins de contrefaçons sur le marché. Ceux qui achetaient des copies de marques n'ont plus assez d'euros pour braver la loi et les douaniers. Au Kenya, le paradis des grands fusils, traverser en dehors des passages protégés sera dorénavant considéré comme une tentative de suicide. Et peut-être écraser un piéton comme accident de chasse ? Pour les veuves éplorées et désireuses de rester fidèles à la mémoire de leurs défunts, voici l'apparition d'un sextoy contenant ses cendres. Mais préalablement refroidi.
11h30, 12h30, Allo Bouvard sur RTL.
Et direction le standard d'Allo Bouvard, nous accueillons Gérard, 68 ans, retraité. Et Gérard habite Auriol.
Bonjour Gérard.
Bonjour Philippe. J'ai une question qui me trottine depuis longtemps dans la tête. C'est l'éducation. Peut-on faire preuve encore de bonne éducation dans les transports en commun ?
Ah oui, c'est vrai que si on se réfère à la statistique sur les incivilités dans le métro, dans le bus et parfois dans certains trains, on peut en douter. Alors, disons tout de suite que nous sommes juges et parties parce que là, on va émettre un point de vue qui sera celui, je le pense, j'en suis même certain, des gens bien élevés. Puisque l'incivilité, c'est le manque de courtoisie, et ça, c'est un euphémisme. Mais il y a aussi les gens qui sont le plus souvent victimes de ces infidélités, de ces incivilités, et qui n'appartiennent pas au sexe masculin, vous en conviendrez.
Oui, tout à fait. Oui,
nous, on est, enfin, dans le plus mauvais des cas, des bourreaux. On est rarement des victimes. Encore, je ne sais pas que peut-être quand vous étiez jeune, vous étiez tellement attractif que certaines dames d'un certain âge vous manquaient de respect.
Non, même pas. Mais vous avez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si je pose la question, si vous voulez, c'est parce que je trouve que, et encore j'habite en province, hein, et c'est véritablement devenu un énorme problème, cette incivilité, dans les métros, dans les tramways, dans les bus, dans les trains, un peu partout. Je les vis, je les ai vécues, dans le métro à Lille, dans le tramway, ici, quand je suis en vacances, dans le bus qui fait la côte. Les gens n'ont plus aucun respect ni des autres, ni de rien. Et c'est assez catastrophique, je trouve, parce que tout se laisse aller. Et ce qui est grave, mais il n'y a pas que dans l'incivilité, c'est l'abandon. Les gens renoncent à essayer de faire quelque chose pour que ça bouge dans le bon sens. Les gens ont peur, les gens reculent, les gens se disent « bon, je ne vais pas bouger parce que je vais prendre une pêche dans la figure et je suis poli ». Et c'est ça qui m'attriste le plus parce que les générations qui arrivent, je ne sais pas comment ils vont gérer toute cette incivilité partout.
Vous voyez, moi, quand je montais dans un ascenseur, avant, je disais « bonjour ». Et puis, arrivé au premier étage, parce que je suis assez flemmard dans les escaliers, je disais « au revoir ». Mais on n'a pas le temps de s'attacher. Hein. Alors aujourd'hui, je ne dis plus rien. Alors écoutez, puisque nous sommes deux hommes et que c'est un problème qui concerne majoritairement, exclusivement les dames, et que j'en ai une charmante qui est à côté de moi, qui est notre speakerine Isabelle, je vais lui demander si elle a été déjà victime de ce que j'appellerais les voix de fesses.
Non.
Jamais.
Non.
C'est fou. Peut-être que vous ne vous déplacez qu'en voiture.
Souvent, oui.
Oui.
En fait, oui. Peut-être... Même dans le métro, non, ça m'est déjà arrivé quand même. Je prends souvent aussi le métro, mais je n'ai jamais eu de mains.
Alors, non. C'est vrai qu'il y a des transports où les mains se baladent encore plus que les gens qui les empruntent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle, alors d'un vilain terme, mais il faut appeler les choses par leur nom, de collage. C'est-à-dire la personne, un homme bien sûr, qui, en dehors des heures de pointe, hein, d'ailleurs, cette expression doit être prise.
C'est lui qui pointe. Hein.
Ces hommes qui se rapprochent très très étroitement d'une dame qu'ils ne connaissent pas.
Non, j'essaie de les décoller vite fait. Je vous assure qu'ils ne s'amusent pas deux fois à me coller.
Non, mais ne me dites pas que vous n'avez jamais eu...
Non, c'est vrai, je n'ai pas
c'est
eu
fou,
de...
C'est fou, alors.
Ouais. Vous voulez venir vous coller ? Non, je plaisante.
Non, mais c'est... Alors, bon, ça infirme un peu la statistique. Et surtout, je pensais que c'était les hommes de goût qui réagissaient prioritairement. Ben, bon. Non, parfois. Alors, redevenons sérieux, puisque c'est un problème qui l'est. Ces incivilités, elles sont de plusieurs ordres, hein. Il y a l'excès de contact humain. Il y a le fait que les gens s'excusent de moins en moins quand ils vous ont marché sur les pieds. Je remarque d'ailleurs que c'est une faute de français de dire qu'on s'excuse, puisqu'on doit présenter ses excuses.
Voilà.
Et qu'on ne peut pas s'excuser soi-même, il faut que ce soit les autres qui le fassent. Mais effectivement, si on ne le demande pas... Alors ça, c'est la bousculade. Mais la bousculade qui a pour origine la précipitation, le fait qu'on a peur d'être en retard au boulot, bon, passe encore. Mais l'attention que l'on porte à l'autre, avec une majuscule, est en forte diminution. Il y a aussi des dames qui se plaignent. Ah, alors ça, je ne sais pas si Isabelle va encore dire qu'elle est exclue de ce reproche.
De quoi ?
Des regards insistants.
Non, ça, alors ça, en revanche... Oui. Ça, oui.
Mais ça, vous le prenez plutôt bien, parce
eh bien, ça
que c'est
dépend.
Un hommage indirect, le regard insistant.
Je me dis, il y a un truc, je me suis mal maquillée ce matin, il y a un problème.
Ah non, le regard insistant dans le bon sens.
Ah oui,
non,
oui.
Non, Isabelle, moi, oui. Si une femme mal maquillée, je ne la regarde pas.
Ah,
non,
d'accord.
Donc, non. Si on vous regarde, c'est que vous êtes très belle.
Non, le regard qui veut dire...
non, parce que parfois...
quand il s'agit d'Isabelle, elle est belle, j'irai
merci.
Bien plus loin, mais je sais qu'elle n'aime pas ça.
Bon. Sûr, j'aime bien, ça me fait plaisir. Hein.
Oui.
Quand même. Allez, encore un petit peu, Philippe.
Non, le témoignage d'admiration, même un peu frustre, est quand même gratifiant. Moi, j'ai espéré en vain pendant toute ma jeunesse qu'il y aurait une dame dans la rue qui me sifflerait. Bon, ça ne s'est jamais produit. Bon.
Philippe et Gérard, on vous retrouve dans un instant. Peut-on faire preuve de bonne éducation dans les transports en commun ? Philippe et Gérard, poursuivez votre discussion.
Ces incivilités, alors j'y
arriverai. Vous avez du mal, Philippe. Hein,
sont d'autant plus graves qu'il y a une majorité de voyageuses, bon, de dames qui sont soumises à ces traitements qu'elles jugent indignes. Voilà.
Non, mais c'est la vérité. Moi, ça m'est arrivé une fois dans le métro à Paris. On était assez serrés, puis juste, je tenais la rampe, il y avait une jeune fille devant moi, et d'un seul coup, je l'ai vue mais rougir, devenir épouvantable, et puis j'ai vu qu'il y avait un mec qui lui passait le journal entre les fesses derrière.
Oh.
Je vous jure, et ce que j'ai fait à ce moment-là, je l'ai tutoyé.
Ouais.
Je l'ai tutoyé carrément, j'ai dit non, qu'est-ce que t'en penses, il faudrait peut-être qu'on aille là et là, et elle a compris que j'avais compris, et le mec il s'est dit tiens, elle n'est pas toute seule, je vais...
ouais.
Il a enlevé son journal.
Non, il est bien que de temps en temps, face aux mains baladeuses, il y ait un grand cœur comme vous. Attendez, ce qu'on observe aussi, alors ça c'est de plus en plus courant et de plus en plus illogique. Ce sont souvent d'ailleurs des jeunes qui sont sur le quai d'une gare et qui ne laissent pas descendre les gens alors qu'il faut que les gens descendent pour qu'ils trouvent une place.
Exactement.
Ouais. Alors, il y a ceux qui mangent aussi dans les transports en commun.
Oui, c'est agréable. La saucissonnade dans le train.
Ah. Il y a Carlos qui racontait l'histoire de la dame qui était dans l'autobus et puis qui ouvrait son cabas, qui sortait des fruits qu'elle coupait en quatre et puis une soupière dans laquelle elle installait ses quartiers de fruits et ça durait très longtemps et puis elle les arrosait ensuite avec une sauce qu'elle avait préparée. et son voisin, que ça importunait, lui disait, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Elle disait, vous voyez, je fais une salade de fruits. Puis bon, il passait 2 minutes, et puis elle baissait la vitre et elle jetait dehors sa salade de fruits. Et il lui disait, mais pourquoi vous faites ça? Elle disait, parce que j'aime pas la salade de fruits.
Excellent. Ah oui.
Alors, autre incivilité, rester à gauche sur un escalier roulant.
Oui. C'est pénible, hein, quand on est pressé.
Oui. Dans le métro, les gens qui veulent absolument avoir une place, parfois, ce sont des plaisantins. Moi, je me souviens de jeunes que j'ai connus quand je l'étais également et qui se faisaient fort, même dans un wagon bondé, de voyager assis. Alors, il y en a un qui mimait un poivreau au bord de la nausée. Les deux autres le soutenaient, prétendaient que leur copain était malade. Et aussitôt, ils se faisaient autour d'eux un grand vide dont ils profitaient. Il y a le transport de certains animaux, notamment les petits fauves. Le transport des objets encombrants, des vélos, par exemple.
Oui. Vous savez, Philippe, j'ai 30 secondes. J'ai une anecdote avec vous. Il y a 20 ans, à peu près, on est arrivé en même temps, sans se connaître, bien sûr, on ne s'est jamais vu de la vie, à la gare du Nord, vous partiez à Bruxelles. Et au moment où on est rentré dans la gare, les grilles se sont fermées et on n'a pas pu rentrer parce qu'il y avait une valise piégée. Ils ont évacué toute la gare, vous étiez à côté de moi, vous m'avez dit, j'ai vraiment pas de peau, moi qui aime pas l'avion, maintenant c'est le train qui me piquine. Oui, et figurez-vous que quand ils ont fait exploser des mineurs qui sont arrivés avec les pompiers, ils ont fait exploser la valise, c'était une mauvaise blague, elle était remplie de grains de maïs. Ça vous dit rien?
Ah oui, si, tout à fait. Tout
on
à
était
fait.
À deux, là, comme des couillons, mais... Attends. Et moi j'ai raté mon train pour Lille et vous pour Bruxelles, voilà.
Alors, terminons par un vœu pieux, parce que on a eu l'air de traiter un peu par-dessous la jambe. Oh, les vilaines expressions, ce problème qui est un problème de société. On peut demander la multiplication des bornes d'urgence et des bornes d'urgence que, et éventuellement, les femmes qui se sentent menacées peuvent alerter par SMS. Et puis aussi, à partir de 20h, faire comme on le fait au Canada lorsqu'il s'agit de bus, demander aux chauffeurs que les femmes seules soient déposées au bas de leur domicile. Voilà.
Oh.
Merci Gérard.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
11h30, 12h30, Allo Bouvard, sur RTL.
La Poste est-elle condamnée à disparaître ou astreinte à un profond renouvellement? Je vais poser la question à Séverine Caz, qui est l'historienne de ce grand service public en pleine mutation. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Votre livre s'intitule « La face cachée de la Poste ». Bon, ça signifie ou bien qu'on ne nous avait pas tout dit, ou bien que vous êtes allé un peu plus loin que les autres, ce qui, je pense qu'il y a des deux. Vous avez tout dit, vous ne nous avez rien dissimulé. Je veux dire, vous avez fait preuve de franchise postale.
Alors, on a rencontré en tout cas énormément de facteurs pour faire cette enquête et écrire ce livre. Et ce qu'on a découvert, c'est que les Français ont tous les jours affaire à la Poste et pourtant, ils la connaissent bien mal.
Oui, c'est vrai, mais aussi, d'abord, la Poste est, comme je l'ai déjà dit, en pleine mutation et puis elle a perdu un peu de son importance. Moi, je me souviens de l'époque où dans chaque gouvernement, on trouvait un ministre des Postes. Hein.
Oui, ça n'est plus le cas aujourd'hui. La Poste est rattachée en général au ministre de l'économie et au ministre de l'industrie.
C'est devenu une société de droit privé.
Absolument, c'est devenu depuis 2009 une entreprise presque comme les autres, à capitaux publics, mais avec les statuts d'une entreprise comme les autres.
Oui, enfin, il faut dire que l'État intervient pour 76%, je crois, ou 74%, et puis la Caisse des dépôts et consignations, ce sont quand même deux participations étatiques, hein.
Absolument. Cela dit, ça change énormément la donne pour la Poste et pour les 240 000 postiers qui travaillent encore pour cette grande entreprise, puisque aujourd'hui, elle doit être rentable.
Je crois que depuis 2000, on ne remplace pas quelqu'un, un postier qui part à la retraite.
Alors, les effectifs à la Poste, effectivement, ont énormément baissé. Pour les syndicats, c'est même un plan social qui ne dit pas son nom, puisque 30% des effectifs ont disparu depuis 10 ans.
Ça coïncide avec notamment la baisse du courrier, hein, qui est passée du double au simple. Hein.
Bien évidemment, puisque les Français s'écrivent de moins en moins. En moyenne, c'est 4 lettres ou cartes postales échangées pour ce qui est du courrier des particuliers. Et puis les entreprises elles-mêmes envoient de moins en moins de courriers puisqu'elles essayent de faire des économies, notamment depuis la crise de 2008, et d'utiliser les correspondances électroniques et les emails.
Et les pauvres facteurs, je dis les pauvres facteurs parce que j'ai découvert, mais je m'en doutais un peu dans votre livre, que dans leur spécialité, les morsures de chiens intervenaient pour moitié dans les arrêts maladie. Hein.
Bon. Oui, ça c'est un fléau pour les facteurs qui reçoivent d'ailleurs des formations pour adopter les bons comportements face à ces animaux, parfois un peu retors.
Alors, les pauvres facteurs sont obligés, mais enfin, je pense que certains prennent ça très bien, parce que ce sont presque des missions sociales hein, qui leur sont imparties, d'aller prendre des nouvelles des personnes âgées, de livrer des médicaments, toute tâche qui était complètement inimaginable il y a encore 10 ans.
C'est-à-dire que par le passé, notamment dans les campagnes, mais pas seulement, le facteur rendait des menus services. Il pouvait apporter une baguette de pain, il pouvait parfois passer prendre un médicament à la pharmacie, mais il le faisait gratuitement. Et en réalité, il le faisait sans avoir aucune autorisation pour le faire. La Poste, à un moment, avait même demandé à ses agents de ne pas rendre ce genre de service. Aujourd'hui, elle mise au contraire sur ses activités, sur ses services, pour essayer à l'avenir de faire plus de chiffres d'affaires, si bien qu'elle passe des partenariats, par exemple, avec les services sociaux des départements, pour rendre visite aux personnes âgées. Les facteurs vont être équipés, cela commence, de smartphones, qui s'appellent Facteo, et donc pourront, d'une simple manipulation sur leur téléphone, envoyer un message, par exemple, aux services sociaux du département, pour dire que tout va bien avec une personne âgée.
Oui, alors, bon, moi, je trouve ça formidable. Sauf que je suis un peu choqué par le fait que quand le postier demande « Alors, ça va, grand-mère ?», il faut que la grand-mère paye 2,50 €. Hein.
Toute la question est de savoir qui va payer pour ce genre de service. On peut aussi imaginer que ce soit la collectivité, puisque cela permet de faire des économies. Ouais. Si les personnes âgées restent à domicile, cela coûte en réalité bien moins cher que si elles sont dans des maisons de retraite ou dans d'autres institutions.
Le facteur, il va aussi remplacer le releveur du gaz et de l'électricité.
C'est une des pistes de réflexion de la Poste qui en ce moment est vraiment en pleine phase d'imagination et cherche absolument toutes les nouvelles casquettes que pourraient remplir ces facteurs. Car sinon, effectivement, son cœur de métier, son activité principale, le courrier est tellement en train de disparaître et à vitesse grand V qu'il lui faut absolument réinventer des nouveaux métiers pour ses facteurs.
Oui. Il va même remplacer parfois, et ça sera, je crois que c'est une bonne idée. D'ailleurs, il y a beaucoup de bonnes idées hein, dans ces mutations. L'inspecteur de la compagnie d'assurance qui tarde à venir constater un dommage.
Oui, absolument. Le facteur est une personne en qui, en général, les usagers ont confiance et donc acceptent de lui ouvrir la porte. Il pourrait, par exemple, venir avec toujours son smartphone Facteo, prendre une photo en cas de sinistre, un dégât des eaux, un sinistre sur la toiture, et l'envoyer à la compagnie d'assurance pour des petits sinistres, lorsque les compagnies d'assurance rechignent un peu à envoyer elles-mêmes un expert.
Oui, en tout cas, tardent beaucoup.
Ou tardent à le faire venir.
Philippe, on vous retrouve dans un instant avec votre invitée Séverine Cazès pour son livre « La face cachée de la Poste ». Suite de votre discussion, Philippe, avec votre invité ce matin, Séverine Cazès, pour son livre « La face cachée de la Poste ».
Est-ce qu'il y a moins de bureaux de poste aujourd'hui que, voilà, 5 ans ?
Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins et pourtant, c'est bien simple. Mis à part les pharmacies, il y a 22 000 pharmacies en France et les bureaux de tabac, 18 000. Les bureaux de poste sont le maillage le plus dense sur le territoire. Il en reste à peu près 10 000 bureaux de poste de plein exercice et puis 7 000 bureaux qui ont été transformés, c'est-à-dire qui ont été placés soit dans les mairies, soit chez des commerçants, notamment dans les campagnes. Et demain, ce mouvement de transformation des bureaux de poste va aussi se produire en ville cette fois.
Enfin, il y a de moins en moins de guichets et de moins en moins de contacts humains aussi.
Oui, c'est une réalité parce que pour la Poste, cela coûte extrêmement cher d'entretenir un bureau, un réseau aussi dense de bureaux. Et donc, depuis un an environ, la Poste est en train de réfléchir à la manière dont elle peut s'adapter au mode de vie des Français et puis, très concrètement, fermer un certain nombre de bureaux qui iront, par exemple, s'installer dans les supermarchés. Elle a commencé une expérience dans la ville de Reims où deux bureaux ont été fermés et trois relais postaux ont été installés dans des supermarchés à Reims. Ça, c'est une expérience pilote que la Poste va sans doute reproduire au fil du temps, pas du jour au lendemain, et en essayant de préserver le plus possible les services pour les clients, pour les usagers.
Alors, heureusement, il y a toujours le bureau du Père Noël et il fonctionne, hein, lui.
Ah ça, il fonctionne. Et c'est la grande surprise dans notre livre, c'est que en revanche, le courrier au Père Noël, lui, ne diminue pas. Tous les ans, c'est entre 1 million et 1,7 million environ de lettres qui sont envoyées, évidemment, par les petits-enfants.
Alors là, naturellement, les effectifs sont beaucoup plus nombreux.
Là, la Poste a besoin de renforts, donc tous les ans, en fin d'année, à partir du mois de novembre, elle constitue déjà une équipe de postiers volontaires, et puis elle embauche des personnes en CDD pour répondre au courrier du Père Noël.
Il y a un fait que vous confirmez et qui est patent, c'est qu'il y a de moins en moins de courriers. S'il y a de moins en moins de courriers, il y a de moins en moins de lettres à franchir. Et pourtant, on sort toujours autant de timbres et il n'y a jamais eu autant de philatélistes, puisque je crois qu'ils sont 2 millions en France.
Oui, c'est vrai, mais malheureusement, c'est quand même un hobby qui est un petit peu en train de se perdre. Les philatélistes s'inquiètent un petit peu pour leur avenir, puisque même s'il reste énormément d'associations philatélistes partout en France, en général, ce sont quand même des personnes un petit peu qui ont du mal à renouveler et à transmettre leur passion des timbres.
Oui, enfin, le nombre de nouveaux timbres que la Poste sort est toujours le même. Et je crois que vous dites quelque part qu'il y a une nouvelle Marianne tous les 5 ans.
Il y a une nouvelle Marianne avec chaque changement de locataire à l'Élysée, puisque là, c'est un symbole républicain très fort. Chaque nouveau président de la République lance sa propre Marianne, son timbre.
Ça pourrait quand même signifier que la collection philatélique est un moins bon placement aujourd'hui qu'hier.
C'est un placement qui a beaucoup perdu de sa valeur.
Ça nous touche beaucoup quand on publie des livres. Le problème que Laurent Voix pose à la Poste. Comment se fait-il que le format du livre pose autant de problèmes?
Alors, la Poste, effectivement, a une petite brouille en ce moment et un bras de fer avec les éditeurs, car ces enveloppes qui mesurent plus de 3 cm d'épaisseur, le tarif a augmenté dernièrement pour les entreprises, et notamment ce sont les éditeurs qui sont concernés, puisque lorsqu'ils envoient des livres, très souvent, ça fait plus de 3 cm. Mais je crois savoir qu'une discussion est en cours avec la Poste pour essayer de résoudre ce problème de tarif.
Parce que Amazon n'a pas de problème pour cet acheminement, et sachant que c'est certainement la société qui envoie le plus de livres, hein.
Oui, Amazon, c'est en réalité le premier client entreprise de la Poste. C'est un client difficile parce que Amazon aux États-Unis, vous le savez peut-être, est en train de développer son propre système de distribution. Donc, il y a en France toujours un peu cette menace qu'Amazon se dote de ses propres camions ou de ses propres moyens de livraison et du jour au lendemain quitte la Poste, alors qu'aujourd'hui c'est un énorme volume de courriers et de colis. C'est un très très gros client pour la Poste aujourd'hui.
Bon, j'espère que ceux qui nous écoutent n'auront pas de problème pour qu'on leur envoie à domicile la face cachée de la Poste. En tout cas, c'était une jolie démarche que de nous en apprendre autant sur quelque chose qu'on croyait bien connaître. Et le titre n'est pas usurpé, que je vous rappelle, « La face cachée de la Poste ». Merci Séverine Caz, merci.
Merci, au revoir.
Dans un instant, RTL Midi avec Sophie Oranche. Allô Bouvard, c'est fini pour aujourd'hui dimanche. Philippe, on se retrouve
Ben, on
samedi.
Se retrouve la semaine prochaine.
Bien sûr.
Le samedi, bon, j'ai pas besoin de vous rappeler les heures, mais enfin, je le fais quand même. Hein.
Oui,
c'est
oui,
à 11h30, hein, jusqu'à 12h30. Après, vous serez libre. Non, vous aurez le journal.
Bien sûr.
Merci et à la semaine prochaine.
Au revoir, Philippe. Vous écoutez RTL, il est 12h30.